On vit le mieux dans 5 pays. Les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, la Norvège et la Finlande. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on vit le mieux? Nous regardons des résultats sur 3 plans. Sur le plan du bien-être mental, sur le plan de la santé physique et sur celle des compétences. Mais il ne s'agit pas des compétences classiques, mais des compétences pour bien-être. Ça veut dire que nous accordons la même importance aux compétences scolaires et compétences sociales. Alors, pourquoi ces 5 pays? C'est parce que des résultats là-bas sont pas seulement élevés, mais ils sont aussi équilibrés parmi ces 3 plans de compétences. Parce que nous ne voulons pas que, par exemple, la réussite scolaire arrive au prix de la santé mentale. C'est aussi la raison pour laquelle certains pays riches sont classés au milieu. Par exemple, des pays comme la Corée du Sud ou le Japon sont au milieu parce qu'ils sont très bien classés au niveau des réussites scolaires et la santé physique, mais très mal classés au niveau de santé mentale. Et nous croyons aux résultats équilibrés pour le vrai bien-être des enfants.
Alors, que nous dit le bilan sur la situation des enfants dans les pays les plus riches d'une façon générale? Vous avez mentionné qu'il y a des pays qui sont au milieu à cause d'un déséquilibre entre réussite scolaire et autres critères. Que nous dit le bilan sur la situation des enfants d'une façon générale?
En général, les pays riches ne convertissent pas leurs très bien conditions socio-économiques en résultats sur le plan du bien-être des enfants. Par exemple, la plupart des pays du groupe de G7, ce sont des pays les plus riches et les plus puissants du monde, en fait, sont classés vers le bas de notre classement. Ça nous montre que la richesse n'est pas la condition suffisante pour le bien-être des enfants. On a besoin aussi de la volonté politique. Et en général, l'UNICEF s'occupe des pays pauvres, mais des pays riches ont leurs propres problèmes. Par exemple, la malnutrition du monde pauvre est sous alimentation, mais le monde riche a aussi sa propre forme de malnutrition. Il s'agit notamment d'obésité. Alors, un enfant sur 3 en pays plus riches est en surpoids et nous voyons la croissance de cette tendance.
C'est un peu lié. L'UNICEF parle de menace du bien-être des enfants. Pourquoi le bien-être des enfants dans les pays les plus riches est-il menacé?
Il y a plusieurs raisons. Par exemple, que le succès peut conduire à la complaisance. Il y a plusieurs exemples de ça. Par exemple, le taux de vaccination contre la rougeole a chuté pendant les dernières décennies dans 14 pays riches. Et nous avons choisi le taux de vaccination contre la rougeole plutôt que, par exemple, le vaccin contre la polio parce que ça nous montre cette complaisance. Dans des pays pauvres, le taux de vaccination nous montre la disponibilité ou l'accessibilité financière ou la logistique des vaccins. Dans des pays riches, ça nous montre quelque chose de plus. Par exemple, l'efficacité des campagnes de communication en matière de santé publique, surtout maintenant pendant l'émergence de mouvements anti-vaccination. Alors, c'est un vrai dommage que certains parmi les pays les plus riches du monde ont perdu le statut d'immunité collective contre la rougeole à cause de leur complaisance pendant les dernières 10 années.
Il en va de même pour l'éducation. Il y aurait jusqu'à 40% des enfants qui n'ont pas les compétences de base en mathématiques et en écriture, en lecture.
Oui, c'est ça. Dans notre plan des compétences, nous accordons la même importance aux compétences scolaires et aux compétences sociales. Mais c'est vrai que des compétences scolaires sont aussi importantes pour le bien-être des enfants. Et nous voyons que la plupart des pays riches, en fait, ne va pas trop bien quand il s'agit de compétences à la fois en mathématiques et en lecture.
Alors, le bilan se base sur des chiffres d'avant la COVID. Qu'est-ce qui donne à penser que la situation se soit aggravée, puisque l'UNICEF tire la sonnette d'alarme comme quoi la situation pourrait s'aggraver?
Avec la COVID, on va voir 2 tendances. La première tendance, ça sera la chute du bien-être en général sur ces 3 plans. Mais la deuxième tendance, ça sera la montée des inégalités parce que la pandémie ne va pas influencer des gens de la même façon. Et la pandémie influencera les gens en fonction du caractère de leur travail, de la protection du travail, des conditions de logement, des compétences académiques des parents quand il s'agit de l'aide éducative. Il y a aussi des aspects personnels, par exemple la qualité des relations familiales. Mais en général, on va voir comment l'inégalité s'aggrave sur le plan mental, physique et celle des compétences. Par exemple, sur le plan mental, bien sûr, le confinement ne sert pas très bien la santé mentale, surtout quand il s'agit des adolescents et pour lesquels le contact avec des amis est important. On va voir aussi comme la pauvreté, la chute du PIB et l'augmentation du chômage va mettre plus de foyers en pauvreté et ça va avoir des conséquences mentales, physiques et de compétences. Quand il s'agit de la santé physique, nous observons la baisse des exercices physiques, mais aussi la pauvreté. L'augmentation de pauvreté va se traduire par une baisse de qualité d'alimentation, par exemple. Et au niveau des compétences, les fermetures des écoles vont influencer des compétences éducatives et sociales. Et aussi, des parents bien éduqués académiquement peuvent offrir plus de l'aide scolaire à ses enfants. Et ça va aggraver l'inégalité.
Dernière question, Anna Gromada. Que recommande l'UNICEF face à cette situation? Que faut-il faire?
D'abord, nous avons besoin des fondations solides. Des fondations solides sont liées aux objectifs de développement durable. Premièrement, il faut réduire la pauvreté et des niveaux d'inégalité, surtout avec la pandémie. Deuxièmement, il faut s'occuper finalement de la santé mentale des adolescents. Il y a un problème de stigmatisation et il y a un problème de la pénurie des services de santé mentale. Troisièmement, nous avons besoin de mettre en œuvre des politiques relatives au lieu de travail. Il s'agit surtout de la culture de la surcharge du travail qui influence le temps que des parents peuvent passer avec leurs enfants. Il faut aussi réduire le niveau de la pollution de l'air qui menace surtout des petits-enfants.